RFI, 14h à Paris, il est midi en temps universel. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Nemo, bonjour à tous. Dans l'actualité, la réaction du guide suprême iranien aux attaques israéliennes contre des sites militaires de l'Iran. Il ne faut, dit-il, ni les exagérer ni les minimiser. Benjamin Netanyahou lui assure que les frappes israéliennes ont atteint leurs objectifs. Espoir de trêve à Gaza, le chef du Mossad rencontre aujourd'hui à Doha son homologue de la CIA ainsi que le premier ministre du Qatar, à suivre dans un instant. En Géorgie, les législatives ont été officiellement remportées par le parti au pouvoir, mais l'opposition refuse de concéder sa défaite et les observateurs internationaux dénoncent des pressions sur les électeurs ainsi qu'un recul de la démocratie. On vote aussi au Japon, le parti libéral-démocrate pourrait perdre sa majorité absolue à la chambre basse du Parlement. Depuis le 6 octobre, l'armée israélienne est à l'offensive dans le nord de la bande de Gaza, mais dans le même temps, une reprise des pourparlers paraît possible après la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar. Le chef du Mossad, les services extérieurs d'Israël, doit rencontrer ce dimanche au Qatar son homologue de la CIA ainsi que le premier ministre qatari. Si l'émissaire américain parvient à un semblant d'accord, il devrait ensuite se rendre à Beyrouth. Des pourparlers s'engageraient alors sur la base de résolution de l'ONU sur le départ du Sud-Liban et le désarmement du Hezbollah. Théo Renaudon a interrogé sur ce point la géopolitologue franco-israélienne Léa Landman.
Les Israéliens, eux, de leur côté, veulent la permission en fait, d'agir dès que le Hezbollah agit. Ça, je ne vois pas très bien comment l'ONU peut accepter une résolution comme ça, mais en tout cas, l'idée, c'est un renforcement très très important de cette résolution de l'ONU, c'est-à-dire que le Hezbollah ne peut plus opérer au sud du Litani, de la rivière. Entre autres, on parle aussi de nouveau, et du côté libanais et du côté israélien, d'une plus vieille résolution. C'est une résolution numéro 15059 qui, elle, parle de désarmer les milices libanaises. Et quand on dit on parle de désarmer les milices libanaises, on parle du Hezbollah principalement. Ça aussi, c'est des choses qu'on n'entendait pas depuis, j'ai envie de vous dire, presque 30 ans au Liban. C'est-à-dire que même au Liban, il y a eu un petit changement, ou même un grand changement dont on ne parle pas encore beaucoup, mais on entend les Libanais parler, où ils se disent, en fait, on va récupérer notre pays. Et ça, c'est vraiment important.
La géopolitologue franco-israélienne Léa Landman. Il ne faut ni exagérer ni minimiser l'attaque israélienne sur des sites militaires en Iran. C'est Ali Khamenei, le guide suprême, qui l'affirme sur le réseau social X. Il dénonce un mauvais calcul de la part d'Israël, mais sans rien dire d'une éventuelle riposte iranienne à la riposte israélienne. De son côté, Benjamin Netanyahou, chef du gouvernement israélien, se félicite. Les frappes d'Israël d'hier matin ont été, selon lui, précises, puissantes et ont atteint tous leurs objectifs. Au moins 24 blessés en Israël où un camion a percuté une station de bus. C'était ce matin à Ramat Hasharon, dans le centre d'Israël, à la sortie d'une base militaire. Selon les services de secours, des blessés dans un état grave ont été évacués vers des hôpitaux de la région. Le chauffeur du camion, lui, a été neutralisé. Aux États-Unis, J-9 avant la présidentielle du 5 novembre. À New York, les supporters de Donald Trump ont rendez-vous ce soir au légendaire Madison Square Garden. Dans le même temps, la démocrate Kamala Harris a prévu de ratisser le terrain à Philadelphie, dans l'état de Pennsylvanie, un état considéré comme crucial, l'un de ceux qui devrait faire la différence le jour du vote. Cette année, contrairement à d'habitude, le Washington Post a refusé de choisir ni Donald Trump ni Kamala Harris. Soutenir un candidat, c'est pourtant une tradition dans la presse américaine, mais cette année électorale n'est décidément pas comme les autres. Christophe Paget a enquêté sur l'attitude de cette presse à l'approche du 5 novembre.
Mercredi, on apprend que le milliardaire propriétaire du Los Angeles Times a bloqué le soutien du comité éditorial à Kamala Harris. Vendredi, c'est le directeur du Washington Post qui annonce que, pour la première fois depuis 36 ans, le quotidien, plutôt marqué à gauche, ne soutiendra aucun candidat. Le journal est la propriété de Jeff Bezos, autre milliardaire, patron d'Amazon. Pour Robert Kagan, qui siégeait au comité éditorial du quotidien et qui, comme d'autres, vient de démissionner, la raison est évidente, il l'a dit sur CNN.
C'est clairement une volonté de Jeff Bezos de s'attirer les faveurs de Donald Trump en prévision de sa possible victoire. Trump a menacé par le passé de s'en prendre aux affaires de Bezos. Bezos dirige une des plus grandes compagnies du pays, compagnie qui a des liens très importants avec le gouvernement fédéral. Il dépendent de lui. Et Trump a été clair, il attaquera les groupes de médias qui le critiquent. Il a menacé de supprimer la licence de CBS. Donc si on veut savoir de quelle manière Trump va bâillonner la presse libre, c'est la réponse, particulièrement quand le média est la propriété de géants de l'industrie qui ont beaucoup à perdre si Trump est en colère après eux.
D'autres journaux respectent encore la tradition. Le New York Times, le Boston Globe ou encore le magazine Rolling Stone soutiennent Kamala Harris. Le New York Post et le Washington Times, Donald Trump.
C'était Christophe Paget du service international de la rédaction.
RFI.
En Géorgie, petite république du Caucase, les élections législatives d'hier ont été officiellement remportées par le parti au pouvoir, le rêve géorgien. La coalition pro-européenne a dénoncé des élections volées et refusé de concéder sa défaite. Défaite qui éloignerait la Géorgie d'une adhésion à l'Union européenne et la rapprocherait de Moscou. Quant aux observateurs internationaux, ils ont dénoncé des pressions exercées sur les électeurs ainsi qu'un recul de la démocratie. Ce dimanche, on vote au Japon. Élections législatives. Le Parti libéral-démocrate, parti conservateur, dirige le Japon presque sans interruption depuis 1955. Il pourrait perdre sa majorité absolue à la chambre basse du Parlement, du moins selon des projections peu après la fermeture des bureaux de vote. L'actualité électorale du jour est riche puisqu'on vote également en Uruguay. Élection générale dans ce petit pays de 3,5 millions d'habitants. En Amérique latine, il se distingue par sa stabilité politique. Au terme d'une campagne apaisée, les Uruguayens désignent le nouveau président et renouvellent le Parlement Théoconscience.
Favori des sondages avec un peu plus de 40% des intentions de vote, le candidat du Frente Amplio, Chamandu Orsi, pourrait faire revenir la gauche au pouvoir. En face, les partis de la coalition de droite actuellement au pouvoir arrivent en ordre dispersé. La place restante pour le second tour se jouera entre Alvaro Delgado, candidat du Partido Nacional et dauphin de l'actuel président, et Andrés Ojeda, le candidat disruptif du Partido Colorado. Si le Frente Amplio défend un renforcement de l'État-providence tandis que la coalition gouvernementale est plus tournée vers le marché, la nécessité de préserver l'équilibre macro économique fait consensus. La question de l'insécurité, principale préoccupation des Uruguayens, a été au centre de la campagne. Faute d'avoir réussi à faire baisser le nombre d'homicides, notamment ceux liés au crime organisé, la coalition gouvernementale impulse une réforme constitutionnelle destinée à autoriser les perquisitions nocturnes qui sera soumise à référendum ce dimanche. Les Uruguayens devront aussi se prononcer par référendum sur une réforme de la sécurité sociale qui propose de ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans, d'éliminer les fonds de pension et d'aligner les retraites sur le salaire minimum. Théoconscience, Buenos Aires, RFI.
En Uruguay, le suffrage est secret et obligatoire. Les bureaux de vote fermeront à 19h30, 20h30, temps universel. Nouveau drame de l'immigration dans la Manche entre l'Angleterre et la France. Un migrant de nationalité indienne est mort ce matin lors d'une tentative de traversée. Son décès vient s'ajouter à deux naufrages mortels ces 10 derniers jours. Les sports en Espagne, le Classico a tourné à la démonstration pour le FC Barcelone. Très facile vainqueur hier soir du Real Madrid sur la pelouse du Bernabéu. Score final 4-0. Le championnat de France de football a lui aussi son classique. L'Olympique de Marseille reçoit ce soir au Vélodrome le Paris Saint-Germain. Une confrontation qui s'annonce plus serrée que les précédentes. OM-PSG, coup d'envoi 19h45 TU. Le record du monde du semi-marathon est tombé ce matin à Valence dans le sud de la France. 57 minutes 30 centièmes réalisé par l'Éthiopien Kejelcha. Enfin, l'Europe est maintenant passée à l'heure d'hiver. La totalité des pays de l'UE ont gagné ce matin une heure de sommeil. Mais les Européens sont perplexes car on leur a promis la fin de ces changements d'heure. Le dernier d'entre eux devait intervenir en mars 2021, Pierre Benazé.
3 ans plus tard, rien n'a changé. Pourtant, une grande consultation des citoyens avait démontré que 80% d'entre eux ne voulaient plus des changements d'heure. Pourtant, le Parlement européen avait voté en 2019 pour y mettre fin. Pourtant, les économies d'énergie réalisées étaient devenues négligeables. Et malgré tout, les 27 n'y arrivent pas. Et c'est bien des 27 qu'il s'agit, car chaque pays doit choisir. L'UE avait comme seul rôle de coordonner la date. Et c'est là que le bas blesse, parce que personne n'est d'accord. Les pays du Nord préfèrent regarder l'heure d'hiver, les pays du Sud l'heure d'été. Et ce n'est même pas une règle générale. Ceci donne une situation inextricable pour la coordination entre des pays qui, pour l'instant, sont très majoritairement calés sur le même fuseau horaire. Résultat, on a glissé le sujet sous le tapis. Au début, on a dit que c'était à cause du Covid, après de la relance, ensuite de l'Ukraine. Et là, pour l'instant, on attend probablement la prochaine crise pour lui mettre sur le dos le maintien du changement d'heure. Résultat, le changement d'heure a débuté en France en 1916, il a été interrompu à peine 3 décennies, et aujourd'hui, il ne semble pas en voie de disparition. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Et donc l'heure sur les pendules de RFI, presque 14h10 à Paris, 13h10 en temps universel. Bonne journée à suivre, sinon à si proche.